Nous accueillons Thierry et Émilie, tous deux éducateurs spécialisés à ALIA, l'association ligérienne d'addictologie, sur le dispositif des consultations jeunes consommateurs, la CJC. Ils sont venus nous parler d'usage et consommation suite à cette période que nous avons tous vécue en 2020, la pandémie et les confinements.
Effectivement, cette période particulière a contraint notre liberté de circuler, à modifier nos rythmes de vie, à couper ou limiter nos liens sociaux, et tout ça dans un contexte préoccupant, créant du stress. Donc assez rapidement, les professionnels en addictologie se sont inquiétés des répercussions sur les consommations. Le confinement a modifié les consos. Pour certains qui ne consomment qu'avec des amis lors d'une fête, ils n'ont pas consommé pendant cette période. Pour d'autres, cette même période a créé des occasions et ou accentué des fragilités. Par exemple, pour lutter contre l'ennui, ils se sont mis à consommer à des moments où ils ne le faisaient pas. On pense aux apéros visio en semaine. Ou ils se sont mis à consommer plus qu'ils ne le faisaient. Une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'OFDT, liste différents troubles liés au confinement. Du stress, de l'anxiété, de l'ennui, de la frustration, de l'isolement, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, et pour certaines personnes, des troubles de l'humeur, de la tristesse, voire un état dépressif, pouvant aller jusqu'à des conduites suicidaires. Tous ces troubles peuvent avoir un impact sur les usages de produits psychotropes, tabac, alcool, cannabis, et les usages sans produit. Je pense notamment à l'utilisation excessive des écrans.
Vous parlez de modification d'impact sur les consommations. Pouvez-vous nous préciser les choses ?
Eh bien, par exemple, pour le tabac, l'ennui et le stress sont des facteurs de risque de surconsommation ou de reprise du tabagisme. En ce sens, les magasins de cigarettes électroniques sont restés ouverts pendant le confinement, l'État reconnaissant ainsi l'intérêt de la vape pour réduire les risques liés au tabac. Quelques chiffres autour du tabac. Santé publique France a mené une enquête auprès de fumeurs en mai 2020. 27% déclarent que leur consommation de tabac a augmenté, 55% qu'elle est stable et 19% qu'elle a diminué. Ces chiffres témoignent de la diversité des situations. Pour certains, le confinement a provoqué une augmentation. Pour d'autres, cela n'a rien changé, voire a permis une diminution. En ce qui concerne les consommations d'alcool, comme nous le disions tout à l'heure, afin de rompre l'isolement et de recréer du lien, les apéros visio ont rencontré un grand succès, entraînant ainsi une banalisation des consommations quotidiennes. Toujours dans cette enquête de Santé publique France, parmi les consommateurs d'alcool interrogés, 11% déclarent que leur consommation d'alcool a augmenté pendant le confinement, 65% qu'elle est restée stable, 24% qu'elle a diminué. Sur le cannabis, du fait de l'illégalité, nous aurions pu imaginer une rupture d'approvisionnement, ce qui n'a finalement pas été le cas. Cela s'explique de plusieurs façons. D'abord, les réseaux de trafiquants qui se sont adaptés en relocalisant leur production, c'est-à-dire en produisant en France et non plus à l'étranger. De plus, on observe une augmentation de l'autoproduction, tendance déjà bien installée. Concrètement, de plus en plus de gens font pousser du cannabis chez eux. Quelques chiffres sur les consommateurs de cannabis. L'OFDT a mené une enquête auprès des fumeurs de cannabis. 11% des fumeurs occasionnels sont devenus des fumeurs quotidiens. Néanmoins, 28% indiquent ne pas avoir consommé et 16% avoir diminué leur consommation.
Et tout à l'heure, vous nous parliez aussi de l'utilisation excessive des écrans pendant le confinement.
En effet, sur la consultation jeunes consommateurs d'ALIA, nous avons constaté que la fermeture des écoles a augmenté le temps d'utilisation des écrans. Nous avons reçu plusieurs demandes de parents s'inquiétant de voir leurs ados être en permanence connectés, bien entendu pour le maintien de la scolarité, mais aussi pour occuper leur temps libre. YouTube, Netflix et les serveurs de jeux en ligne ont battu des records de connexion. Derrière l'inquiétude des parents, les jeunes nous ont dit vouloir s'occuper, n'ayant rien d'autre à faire et rester en lien avec les amis. Dans ce contexte si particulier, il a fallu s'adapter. Parents et ados ont dû réinventer les règles. Certes, les écrans sont fatalement plus présents, mais il est essentiel de conserver un certain équilibre, avoir d'autres sources de plaisir que les écrans, conserver une activité physique, maintenir un rythme adapté de sommeil. Ces conseils sont valables en ce qui concerne également les consommations de produits. Dans une période difficile, prendre soin de soi, bien dormir, bien manger, se faire des petits plaisirs, ne pas rester seul, exprimer ses émotions, inquiétudes, craintes, angoisses, tristesse, à ses proches ou à des professionnels sont des bases pour prévenir des consommations à risque.
D'ailleurs, en parlant de prendre soin de soi, il me semble qu'en janvier, c'est le mois du Dry January.
Oui, en effet, cette campagne de prévention vient du Royaume-Uni. On peut traduire Dry January par janvier sec, c'est-à-dire une pause d'alcool pendant un mois pour donner du répit à son corps et à son porte-monnaie, mais également faire le point sur la place qu'occupe l'alcool dans son quotidien. Les bénéfices sur la santé sont prouvés. Perte de poids, meilleur sommeil, regain d'énergie, meilleure concentration et à terme une consommation d'alcool mieux maîtrisée. Même chez celles et ceux qui n'ont pas réussi complètement le défi. C'est la deuxième année en France et pour vous accompagner dans ce défi, il existe une application en français qui s'appelle Try Dry. Elle est disponible sur iOS et Android.
On essaiera ça alors. Merci beaucoup Thierry et Émilie, éducateurs spécialisés à Alia.
Merci.
Andrew Daniel anime un groupe de parole sur Facebook qui s'appelle « Se sortir de la bouteille » autour de l'addiction à l'alcool. Bonjour Andrew.
Bonjour à vous.
Alors est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est ce groupe exactement ?
Alors ce groupe Facebook a été créé par une personne qui s'appelle Virginie Amonet.
D'accord.
Qui a notamment vécu l'alcoolisme, qui a écrit un bouquin qui se nomme « Noyé dans l'alcool ».
Ouais.
Donc du coup qui a créé ce groupe Sortir de la bouteille.
Ouais.
Donc qui a écrit le livre Se noyer dans l'alcool. Donc m'a proposé donc de devenir administrateur de ce groupe.
Mm-hmm.
Voilà. Sachant qu'auparavant j'étais adhérent d'un groupe qui s'appelait Voir plus long que le fond de son verre. Donc du coup j'ai accepté sa demande de devenir administrateur du groupe.
D'accord.
Donc c'est un groupe en fait qui regroupe des gens qui ont des problèmes de près ou de loin. Par rapport aux addictions, que ce soit alcool ou autre, mais nous on est plus basé sur l'alcool, hein. Sachant que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychologues, donc nous sommes là plus pour être à l'écoute et éventuellement les orienter vers des médecins, des associations comme Vivibre, Alcool Assistance, etc., ou bien faire des centres de post-cure ou de cure, quoi. Voilà.
D'accord.
Bonjour Andrew, je t'avais pas dit bonjour.
Bonjour.
Vis-à-vis du confinement, est-ce que cela a influencé et aggravé les comportements d'addiction à l'alcool ?
En fait, ce groupe a été créé au mois de novembre.
Ouais.
Donc, par rapport au confinement, on n'a pas eu trop de répercussions, mais on a quand même eu des échanges avec des gens qui se sont sentis quand même un petit peu perturbés par ce confinement, et notamment moi, qui a toujours une relation avec le CMP au boulevard du Roi René. Avec un infirmier psy une fois par semaine pour parler un peu de la problématique.
Ouais.
Parce que je suis abstinent, mais j'ai quand même depuis 7 mois, mais j'ai quand même été dans l'alcool. Il m'a dit que des gens qui allaient plutôt bien ne vont pas très bien, et les gens qui n'allaient pas du tout bien ne vont pas du tout, enfin encore moins bien quoi. Donc c'est vrai que ça a posé beaucoup de problèmes, notamment de stress chez les gens, puis des gens aussi qui ont perdu leur emploi. Donc c'est vrai que oui, ça a été un réel problème. J'ai pu le voir aussi par rapport à mes amis, mon entourage, que ça peut éventuellement, oui, le confinement créer des problèmes au niveau de l'alcool, quoi.
Donc il y a eu un impact. En janvier,
oui.
Il y a le Dry January en anglais. Est-ce que ça vous semble être une solution efficace pour prendre conscience de cette addiction éventuelle ?
Alors moi, j'ai pas trop pris de position vis-à-vis de ça au niveau du groupe. On nous a demandé de prendre position. Donc je sais qu'il y a le Dry January qui existe. Il y a aussi le fameux Janvier Sobre créé par Laurence Cottet.
Mmh.
Alors oui, ça permet de se remettre en question en fait au mois de janvier, de se dire voilà où j'en suis par rapport à ma consommation. À quelqu'un qui va boire énormément, de se dire par exemple bon bah au lieu de boire mes 5 bières par jour ou n'importe quel d'alcool, je vais devoir diminuer un petit peu et puis voir où j'en suis, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut aider certaines personnes, mais je pense que pour des gens qui sont totalement dans l'alcool, qui sont vraiment alcooliques, qui sont vraiment accrochés au produit, leur demander de diminuer leur consommation, c'est vraiment compliqué.
Ouais.
Donc je pense que pour moi, je parle avec mes convictions, ça s'adresse plus à des gens qui ont une problématique au niveau de l'alcool, qui est plus un alcool festif, c'est-à-dire un alcool de système de récompense, c'est-à-dire de boire ces trois, quatre verres de bière ou de vin le soir, et de se remettre en question et de se dire, ah oui, effectivement, c'est vrai que j'ai une consommation qui est quand même régulière et qui peut éventuellement m'entraîner vers quelque chose de plus grave. Et pour les gens qui ont des problèmes, donc vraiment alcooliques purs et durs, qui sont vraiment dans le produit et qui sont vraiment addicts, ça peut aussi leur permettre d'avoir une prise de conscience et de se dire oui, j'ai un petit peu trop loin, est-ce qu'il ne faudrait pas que je consulte mon médecin ?
D'accord.
Et ça peut aussi permettre, pour finir, que pour des gens qui ne consomment pas, de voir autour d'eux comment ça se passe au niveau de l'entourage familial, s'il n'y a pas des problèmes d'alcool dans la famille ou au niveau des proches. Quoi. C'est tout à fait... ce sont des choses que je respecte, hein, y a pas de souci.
Très bien. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Andrew, Daniel. Je crois que Mehdi a encore une question.
Non, je voulais juste remercier Andrew
pour
la participation.
Merci beaucoup.
Donc, on mettra sur notre page Facebook ton groupe qui s'appelle Se sortir de la bouteille et un groupe de parole. Donc, merci beaucoup, Andrew.